c'est l'heure du LEM, l'émission quotidienne de Transistor du lundi au vendredi, la saison 10, et on plonge aujourd'hui dans l'océan pour scruter le plancton avec Bretagne Vivante.
LEM, l'émission sur Transistor. Creuser le Finistère, labourer les circuits courts, plonger au fond.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Magazine qui vous fait entendre le Finistère, tout ce qui dérive et ne peut pas remonter le courant. Et on peut ajouter qui est vivant, c'est la définition du plancton. Alors, on a bien dans l'idée que c'est tout petit, des petits animaux, le zooplancton, des petits végétaux, le phytoplancton, des petits champignons, des levures aussi sans doute. Le mycoplancton, c'est un terme qui existe en anglais, en français il est encore un peu marginal. Ça n'a l'air de rien ce petit monde, mais c'est la base de la vie dans l'océan. La vie en plus grande dimension est souvent plus populaire, elle titille davantage l'imaginaire sans doute, mais nos deux invités, elles s'intéressent donc aux tout petits. Il y a avec nous en plateau Nicole Maillard, bonjour.
Bonjour.
Et il y a par téléphone Virginie Antoine qui va d'ailleurs nous présenter, nous préciser la définition du plancton. Bonjour Virginie.
Oui, bonjour Véronique, vous venez déjà de pas mal décrire ce que c'est le plancton au niveau de la définition. On sait que le plancton, c'est tous les organismes qui vivent et qui suivent le courant, qui errent dans le courant. D'ailleurs, ça, c'est du grec, hein. Plancton, c'est plancton, c'est errer au gré des courants. Et oui, on a le phytoplancton, donc le plancton végétal. Lui, il regroupe tous les organismes unicellulaires photosynthétiques, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre nourriture grâce au soleil, grâce à l'énergie solaire. Puis on a le zooplancton. Le zooplancton, lui, c'est le plancton animal, c'est aussi des organismes unicellulaires et ils se nourrissent du plancton vivant. Enfin, tout ça pour souligner que le plancton, c'est vraiment la base de la chaîne alimentaire. On parle de poumon de la planète. Alors, pour préciser, moi, à Bretagne Vivante, je suis chargée de mission mer et littoral. À la base, mon champ de travail, c'est de participer à tout ce qui est mission politique dans les instances. On parle pas trop de plancton, mais je m'y suis passionnée lors de contrats que j'avais pu avoir avant de travailler à Bretagne Vivante, à l'Ifremer. Et pour la petite anecdote, en fait, un de mes premiers contrats a été de passer 80% de mon temps derrière un microscope à lire le phytoplancton. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal dans ma vie? Quelle punition de se retrouver 80% de mon temps derrière un microscope. Et ben, en fait, je me suis passionnée parce que c'est tellement beau ce qu'on peut voir.
Mais ça va être d'ailleurs un des sujets de l'émission, la beauté de tout ça. Mais juste pour préciser la définition, donc ça veut dire que ce sont des êtres qui ne peuvent pas bouger par eux-mêmes, c'est ça?
Oui, c'est ça. Ça flotte au gré des courants.
Ils n'ont pas de muscles. Enfin, ceux qui sont des animaux, en gros, ils n'ont pas de muscles, quoi. Ils ne peuvent pas nager.
Alors, peut-être que...
Oui, Nicole.
Oui, peut-être que je peux rajouter quelque chose, c'est qu'en fait, ils peuvent se déplacer par eux-mêmes, ils ont des flagelles, des cils, il y a plein de mouvements dans l'eau, mais en fait, comme ce sont des micro-mouvements, et ils ne peuvent pas lutter contre le courant, en fait. Mais par eux-mêmes, ils ont quand même des modes de déplacement pour pouvoir manger, se reproduire et tout ça.
D'accord. Et donc, en fait, il n'y a pas une taille maximale pour ne plus être du plancton. Plancton, c'est ça? Enfin, il y a pas ça.
Le plus gros plancton, c'est des méduses. Il y a des méduses qui peuvent faire une taille jusqu'à 2 mètres, je crois. Donc, en fait, il y a du gros.
C'est quand même du plancton.
Oui, c'est la méduse fait partie du plancton. D'accord. Parce que justement, c'est pour ça qu'elle s'échoue, parce que elle n'arrive pas à lutter contre le déplacement d'eau.
D'accord, ok, je comprends.
Mais elle fait partie du plancton, et ça, c'est vrai que ça, on part des virus, des bactéries qui sont tout petits, jusqu'à des tailles aussi importantes.
Et vous, Nicole Maillard, alors pourquoi est-ce que vous êtes venue au plancton ? Comment vous êtes venue au plancton ?
Alors, de par ma formation, moi aussi, j'ai fait de la microbiologie, donc beaucoup de microscopes, où j'ai étudié les bactéries en premier. Ça devait être mon travail, mais je n'ai pas fait ça du tout. Et donc, en suivant tout ce qu'on pouvait regarder au microscope, je me suis aperçue que c'était un monde merveilleux, en fait, que ça soit... tout ce qui est végétal, animal, ou les lichens, les myxomycètes, ça, on pourrait faire une petite émission là-dessus.
Oui, oui, tout à fait, c'est les blobs, hein, c'est ce qu'on appelle les blobs. C'est des sortes de champignons, enfin, ils sont classés dans les fungi.
Sont entre champignons, on ne sait pas trop encore, quoi. Il y a beaucoup d'études là-dessus.
Et il n'y en a pas dans la mer, des myxomycètes,
blobs. Non. Ils sont surtout sur les bois morts, humides. Ouais. Et en fait, moi, à mon travail, parce que je travaillais dans un laboratoire de lycée, j'ai pu étudier ces blobs et aussi le plancton. Et par contre, au départ, on faisait ça avec les élèves. Et en fait, ça n'existait plus. Donc moi, j'ai cherché un moyen pour pouvoir continuer à observer toute cette vie là, aquatique, qui m'intéresse énormément. Et j'ai rencontré Pierre Molot à une conférence qui m'a vraiment donné le virus, c'est le cas de le dire.
Voilà, et le virus, on l'attrape parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas forcément s'ils n'ont pas regardé le plancton, c'est que tout ça, c'est quand même d'abord très beau. Enfin, c'est un univers vraiment très visuel. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Nicole, ou Virginie.
Oui, bah, je pense que toutes les deux, c'est ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est que ça peut paraître un peu complexe et surtout, il faut rester modeste parce qu'on n'arrive pas à identifier tout. Enfin, c'est vraiment, c'est immense, on ne sait pas 10% de ce qu'il y a. Et en fait, quand on tombe sur des formes de géométriques, enfin, les diatomées, entre autres, elles sont toutes rondes, elles sont parfaites, elles ont une structure, il y a du vert fluo, enfin, c'est vraiment très très beau. On peut aussi trouver des copépodes de toutes les couleurs. Enfin, moi, ça m'est arrivé de rester bouche bée, c'est le cas de dire.
C'est quoi des copépodes ? Ils ont plusieurs pattes, non ? C'est quoi ?
Alors, les copépodes, ce sont des petits animaux qui sont assez importants dans l'océan, puisque c'est ce qui fournit toute la nourriture de pas mal de poissons, d'animaux, après, dans la chaîne alimentaire. Donc, il y en a partout. Ils ont deux grandes antennes. Mmh. Et quelquefois aussi, on les voit qui se baladent avec un sac d'œufs qui les suit, quoi, parce qu'en fait, et ces petits animaux, en fait, sont durs à observer parce qu'ils se baladent dans tous les sens. C'est compliqué aussi l'observation au microscope parce qu'en fait, bah, on voit des choses passer.
Ah, ils bougent tout le temps,
ça bouge tout le temps.
Les immobiliser.
Donc, soit il faut les tuer pour les voir, mais ça, c'est pas trop mon truc. Et là, ce que je voulais dire par rapport à ça aussi, c'est quand on fait, moi, ça m'arrive de faire des animations juste avec mon microscope sur un stand comme ça, quand il y a des gens qui passent avec des enfants et des adultes, les enfants, souvent, quand ils voient ça, ils sont vraiment émerveillés. C'est redonner aussi l'émerveillement, j'insiste beaucoup là-dessus, pour que les gens comprennent ce qu'il y a dans la mer. En fait, il faut être ému, émerveillé et avoir envie après de protéger tout ça.
Oui, c'est ça. Et justement, Virginie, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces couleurs, ces formes, ces mouvements du plancton ?
Eh bien, que c'est fabuleux à regarder au microscope. Moi, j'imaginais pas, je soupçonnais pas la beauté de ce qu'on peut voir au microscope. Alors, ce qu'on peut après d'un point de vue plus scientifique, ce qu'on peut aussi décrire, c'est que certains. Alors, on les voit pas. J'ai envie de vous dire plein de choses. On les voit pas forcément à l'œil nu, et on est obligé de regarder au microscope pour certaines espèces. Comme on le disait, ça va de tout petit micron à des dizaines de mètres. Mais il y a des fois du phytoplancton qu'on peut voir à l'œil nu quand on parle de bloom phytoplanctonique, parce que ça va proliférer et on va pouvoir les observer parce que certains blooms vont avoir de la couleur et on peut les observer à l'œil nu. Là, on peut aussi observer par les satellites. Et j'en viens pour parler précisément d'une espèce qui s'appelle les coccolithophores. Et eux, ils ont une petite carapace calcaire. Et ils sont victimes malheureusement de l'acidification des océans et du réchauffement climatique. Mais peut-être on pourra en...
On va y revenir, bien sûr. Non, pour l'instant, on était plus sur la description, les couleurs. Toutes les couleurs sont représentées, toute la palette
Oui, ça fait partie des algues, ben, on peut en voir avec des pigments rouges, des pigments verts. Oui, il y a différentes couleurs. Oui.
Et les formes, c'est pas toujours géométrique, on est d'accord. Ils sont pas tous géométriques. Enfin, Nicole.
Oui. Alors moi, je voulais rajouter une chose. J'ai eu l'expérience d'aller dans une école d'art à Bruxelles, puisque ma fille est à Bruxelles et elle est aussi mobilisée sur le plancton, donc elle m'a fait rencontrer ses étudiants. Et en fait, ils ont été estomaqués de voir vraiment les formes, les couleurs et tout. C'est vraiment artistique.
C'est graphique, ouais.
C'est très artistique. Ouais, d'ailleurs, il y a eu des livres décrits. Enfin, il y a des dessins qui sont magnifiques sur le plancton.
Et un petit mot des modes de reproduction qui sont parfois étonnants, Nicole.
Oui, ben moi j'étais un peu en creusant un peu donc tout ce monde là, c'est vrai que j'étais étonnée de voir comment les diatomées se reproduisent par exemple. C'est un peu, j'ai essayé une fois de faire une démonstration de comment ça se reproduit parce qu'en fait ça fait comme une boîte de camembert. Il y a le dessus et le dessous de la boîte et en fait la boîte du dessous elle va se multiplier. Il y aura un nouveau couvercle, ainsi de suite. Et c'est de plus en plus petit. Alors ça c'est un type de reproduction. Alors chez les animaux, ce qui m'a épaté aussi, je crois que c'est chez les daphnies, donc là qu'on trouve plutôt dans l'eau douce.
Parce qu'il y a aussi du plancton d'eau douce.
Ah mais il y en a partout.
Nous on parle de l'océan.
Si vous prenez de l'eau dans votre vase ou dans quelque chose que vous avez laissé à l'extérieur, il y a du plancton dedans. Donc, en fait, il faut être conscient qu'il y a de la vie partout. En fait.
Oui. Dès qu'on
met la tête dans l'eau, en fait, on absorbe tout ça. Quoi. Donc ça, des fois, ça peut poser question parce que...
Tout va bien, on en a aussi sur notre peau. Hein,
exactement,
on le sait très bien.
Et puis ça ne va pas nous rendre malades.
Non,
et donc, par exemple, les daphnies, elles peuvent, suivant justement le contexte, si le contexte est défavorable, elles peuvent être à la fois... c'est souvent elles portent les œufs, et c'est souvent, il n'y a que des femelles, et puis il peut y avoir aussi des transformations suivant le contexte. Elles peuvent
des changements de sexe.
Voilà,
ouais.
Elles peuvent changer et s'adapter. En fait, tout ce petit monde s'adapte à un contexte. Vous avez aussi des formes. Alors ça, c'est pas la reproduction, mais il y a des formes qui vont s'enkyster, comme tout ce qui est les proto-péridiniums, là, qui font justement des os. Elle parlait tout à l'heure des blooms, Virginie,
ouais, tout à fait.
Qui ont des conséquences. Hein. Les blooms, c'est pas que la couleur.
On va y revenir après.
Et donc eux, ils vont s'enkyster, ils vont faire comme des petits kystes, vous voyez. Puis ils vont descendre au fond de l'eau, puis ils vont attendre que le contexte redevienne favorable pour à nouveau se développer.
D'accord. Et voilà. Alors vous parlez de capacité d'adaptation. Mmh. Nicole Maillard, mais malgré tout, il y a une fragilité en fait de ces planctons.
Oui. Alors la fragilité, c'est surtout, j'ai lu ça dans un bouquin il n'y a pas très longtemps, en fait, c'est vrai qu'il faut vraiment prendre conscience que le plancton, justement comme il suit les masses d'eau et tout ça, donc il dépend complètement de ce qui va se passer localement ou même en mer, hein, parce qu'en fait, s'il y a un polluant déversé quelque part, il ne peut pas s'en aller. Si l'eau se réchauffe, donc tout ça, c'est très très fragile.
D'accord, et c'est pour ça que Bretagne Vivante fait de la sensibilisation. Alors les blooms, je ne sais pas qui est-ce qui va nous expliquer un peu en quoi c'est aussi un problème. Enfin, c'est pas forcément une bonne chose le bloom, c'est ça? C'est alors, vous, Nicole?
Virginie, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose.
Virginie,
puisqu'elle elle connaît bien Phénomère.
Ah bah, elle nous en parlera après. Alors expliquez-nous juste en quoi ça peut être un problème, un bloom, une explosion de vie, c'est ça?
En fait, le gros souci, c'est que il y a beaucoup, donc c'est une espèce qui va se développer au détriment de toutes les autres en fait. Donc moi ça m'est arrivé de faire des prélèvements parce qu'en fait quand il y a un bloom, moi je suis référente localement, donc en fait je vais chercher de l'eau, je signale à l'Ifremer, à Phénomère.
C'est plutôt des végétaux hein, les blooms?
Ah non, c'est d'accord. Ce qu'on appelle des dinoflagellés, donc
c'est des petits animaux
unicellulaires, okay. Mais qui ont souvent un flagelle ou deux flagelles.
Donc c'est pas des micro-algues comme
on
dit?
Okay. Non,
d'accord.
Donc ils vont manger un peu tout ce qu'ils vont... se développer, alors peut-être à cause des nutriments, s'il y a trop de phosphore, tout ce qu'on veut, et peut-être à cause de la chaleur aussi, et du coup ça crée un déséquilibre. Le problème, c'est dans le plancton, c'est les déséquilibres en fait.
Et ce phosphore, il vient des activités humaines, on est d'accord?
Oui,
trop de phosphore.
Il y a Pierre Molot, c'est très intéressant, vous avez l'occasion de lire ses livres, là où il parle justement, je crois que c'est la sardine et la châtaigne, je crois, et ça explique bien que tout ce qui se passe sur Terre après se retrouve en mer. Et du coup que ça peut soit favoriser le plancton ou alors au contraire provoquer des
lui nuire quoi. Voilà. Ouais. Et alors Virginie Antoine, Phénomère, qu'est-ce que c'est cette opération de science participative?
Oui, je suis plus à l'aise à vous parler des blooms que la reproduction, bien que justement, les blooms, c'est pour un peu donner des compléments à ce que décrivait Nicole, en fait, les blooms, et je viendrai à Phénomère juste après, quand même préciser que les blooms, ça, il n'y a pas que les dinoflagellés, il y a aussi, par exemple, les diatomées. Vous voyez, au printemps, quand les arbres les sous-bois, il y a les feuilles qui sortent, ben on va avoir on parle aussi de bloom, de diatomée, parce que ben il va avoir toutes les conditions favorables pour que les microalgues se développent. Donc on parle quand même aussi de bloom de façon, enfin ce n'est pas que synonyme de pollution. Mais cela dit, Nicole expliquait très justement que comme c'est à la base de la chaîne alimentaire, donc ces microalgues, dont les diatomées qui vont pour qu'elles prolifèrent de façon importante, on parle d'effervescence algale, hein, c'est la traduction de bloom, c'est parce qu'elles ont eu des nutriments qui vont leur permettre de, au printemps justement, il y a toutes les conditions qui sont réunies, soleil, nourriture, qui vont permettre de proliférer et voilà. Et donc Phénomère, c'est un programme de sciences participatives qui a été créé en 2014 par l'IFREMER avec un consortium de scientifiques aussi du CNRS et de la station biologique de Roscoff pour étudier ces blooms, mais alors là sur le côté creuser justement ce que peuvent provoquer les déséquilibres d'apport de nutriments. Et ça, en effet, ça a un lien avec nos activités humaines, donc ce que vous disiez en termes de fragilité. Et alors, Phénomère, on peut y participer dès qu'on observe une coloration de l'eau en allant réaliser un prélèvement. Ça avait commencé, vous en avez peut-être entendu parler, en 2008, il y a une espèce toxique qui avait proliféré en rade de Brest qui s'appelle Alexandria minutum, et en fait, il y avait eu des eaux colorées rouges en rade de Brest, et par la suite il y avait eu des fermetures par rapport à la consommation de certains coquillages qu'on trouve en rade de Brest. Donc tout ça pour venir aussi au problème de pollution qui viennent de nos bassins versants, qui peuvent justement changer les communautés de phytoplancton. Mais si vous voulez, je pourrais en revenir en détail.
On va justement aborder les chapitres qui fâchent. Enfin, on a commencé à le faire un peu, mais d'abord, on va juste se détendre un tout petit peu en écoutant une petite chanson inspirée par le plancton. Un extrait, en tout cas.
Seul sur l'eau, le plancton, c'est beau. Spiruline verte, bleue à l'intérieur, et le silence.
Chapeau de soleil, petit fruit de l'océan, chaussures en caoutchouc, choucroute de la mer. Soleil, petit fruit de l'océan, chaussures en caoutchouc, choucroute de la mer.
C'est une création Bretagne vivante, presque ça, Nicole Maillard.
Nous, en fait, c'est toujours ma fille avec un ami Clément. Donc, ils étaient venus à Bain Public, à Saint-Nazaire. Et on avait fait une journée entièrement consacrée au plancton. Et avec les différents acteurs, c'était intéressant parce qu'il y avait aussi des pêcheurs méthyliculteurs.
Oui, parce qu'ils vont être concernés aussi par les problèmes
du plancton. Et l'idée, c'était de vraiment sensibiliser sur tout ce lien à la mer, parce qu'en fait, ça fait vivre beaucoup de gens aussi au niveau économique.
Bien sûr.
Et là, ce qui était chouette, c'est qu'on avait notamment un industriel, enfin quelqu'un qui vraiment vit des microalgues, hein, puisqu'il a fait des produits à base de microalgues, et qui lui n'avait pas vu ce côté un peu pollution, tous les problèmes. Et suite à cette journée, on a eu des échanges intéressants. Et je trouve assez chouette aussi de pouvoir, c'est ce que je disais à Virginie ce matin, qu'on montre bien qu'aussi à Bretagne Vivante, on n'est pas que on protège la nature. nature, oui, la sensibilise.
On n'est pas coupé des réalités
économiques. Et qu'il ouais. faut aussi que, qu'on embarque tout le monde là-dedans.
Bien sûr.
Voilà.
Et alors, alors, vous alertez à Bretagne Vivante les responsables politiques sur deux phénomènes. Enfin, la disparition des diatomées. Alors, je ne sais pas si c'est vous, Nicole, ou Virginie.
Oui, alors ça, c'était plus... C'est Pierre Molot. Moi, ça m'a frappé la première conférence où je l'ai vu quand il a parlé de ça. Parce que les diatomées sont quand même à la base, vraiment à la base, le phytoplancton. S'il n'y a pas de phytoplancton, il n'y a pas de zooplancton.
Donc là, c'est des microalgues, on va dire.
Oui, c'est des microalgues, ouais, là, qui sont très nombreuses, les diatomées, là, les coccinodiscus.
Il y en a plusieurs espèces.
À chaque fois que je regarde dans une goutte d'eau, il y en a, en fait,
d'accord.
en gros.
Okay.
Et donc là, il alertait là-dessus, parce qu'en fait, à cause du réchauffement climatique, donc, l'océan absorbe le CO2, donc il y a une acidification de l'eau, et elles sont faites en... Leur structure, en fait.
Elles sont... Une sorte de squelette externe, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est ce qui reste si on enlève tout ce qui est vivant. Mmh. Et en fait, elles souffrent énormément de ça et elles ne peuvent plus construire trop leur... Donc, elles sont très, très impactées par ce changement climatique. Là, on le voit ici aussi, le réchauffement.
Et le problème, c'est que quand il n'y a plus de diatomées, il n'y a plus de nourriture pour les poissons, notamment, hein, c'est ça ?
Oui, alors je suis quand même, j'essaye d'être optimiste en me disant que il y a quand même, comme c'est que des petits équilibres, donc peut-être qu'il y a d'autres espèces qui vont plus se développer, qui résistent mieux. Enfin, en fait, on ne connaît rien, quoi.
Ouais.
Et là, je sais pas, on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui.
Mais moi, je tiens aussi à ce que ça se répande un peu, qu'on en parle dans les grandes instances, là, européennes, tout ça.
Qu'on fasse plus de recherches sur le plancton aussi, peut-être. Virginie Antoine, vous voulez compléter? Sur les diatomées ?
Peut-être, oui, dire que elles sont impressionnantes, ces diatomées, parce qu'elles construisent leur boîte de verre en silice, et que, c'est ce que disait Nicole, hein, qu'avec les problèmes d'acidification de l'eau, elles vont plus pouvoir fabriquer leur enveloppe. Alors moi, je suis moins optimiste que Nicole, dans le sens où on remarque que les sardines, par exemple, elles ont, en 20 ans, la taille des sardines, elle a diminué par deux. Elles sont passées de 20 cm à 13 cm. Et ça, en fait, on le relie à l'appauvrissement du plancton et justement à ces changements de communautés, d'espèces phytoplanctoniques, puisque c'est la base de la chaîne alimentaire.
Donc, oui, et il y a d'autres impacts d'ailleurs, donc on en parlait, sur tout ce qui est coquillage notamment. Enfin...
Oui, voilà, donc là, il y a, pour le cas de la sardine, il y a toute la filière pêche et conserverie qui est... Et les conserveries qui sont impactées. Et en effet, il y a les coquillages que nous allons déguster à Noël, si on en a la chance. Par exemple, les coquilles Saint-Jacques, les huîtres. Et là, on voit bien que ces dernières années, il y a de plus en plus d'interdiction de consommer dans certains endroits la coquille Saint-Jacques liée à des phytoplanctons toxiques. Qui libère des toxines qui sont vraiment mauvaises pour la santé. Alors la moins pire, c'est la diarrhéique toxine qui provoque des diarrhées, mais on peut avoir des toxines amnésiantes ou paralysiantes selon les espèces concernées. Donc ça c'est des changements induits par nos activités humaines qui provoquent des déséquilibres d'apport de nutriments. Si on peut se permettre la comparaison maladroite, c'est comme quand on mange trop de sel, le phytoplancton, s'il va pas avoir les bons nutriments qui vont bien, dont la silice, parce que on parlait des diatomées, c'est pour revenir sur les diatomées qui ont besoin de silice pour fabriquer leur boîte. Donc la silice, c'est un des nutriments qui arrive par nos bassins versants. Voilà.
Et donc, ce que demande Bretagne Vivante, notamment, c'est que la question du plancton soit vraiment plus présente, notamment dans les COP, parce qu'on ne voit pas beaucoup, il n'est pas beaucoup question de plancton, c'est ça, Nicole Maillard ?
Bah en fait, moi, à part Pierre Molot, parce que Bretagne Vivante, ça reste... donc Virginie s'occupe du groupe mère, et donc elle fait un travail énorme, là. Moi, je tenais à le dire ici. Et on est quand même sur Bretagne Vivante, il y a beaucoup de bénévoles, mais il y a très peu qui s'occupent du plancton. Et Pierre Molot a fait, entre autres, un spectacle qui s'appelle La Voix des Océans, moi, je l'ai vu encore dernièrement. Donc c'est peut-être une façon d'interpeller plus de monde, mais au niveau des responsables... J'espère qu'il va y avoir un déclic, oui, parce qu'on en parle très peu, c'est à la marge, alors qu'ils savent très bien que c'est la base. Quoi.
Ouais. Donc, et même Virginie Antoine, scientifiquement, finalement, on ne connaît pas beaucoup le plancton, c'est ça ?
Non, on a besoin d'approfondir les connaissances. Donc il y a plein d'études qui sont menées dans des labos de recherche, hein, la station biologique de Roscoff, à l'Ifremer. Mais oui, en fait, ce qu'on voulait faire passer comme message avec Nicole, c'est l'importance d'insuffler dans les politiques liées à la biodiversité l'importance du plancton qui comme on l'a dit, qui est à la base de la chaîne alimentaire, qui est qualifié de poumon de la planète parce qu'il absorbe le carbone, le dioxyde de carbone, parce qu'il relargue de l'oxygène, enfin c'est l'importance. Donc oui, quand même, voilà, c'est un peu notre rôle à Bretagne Vivante, continuer à émerveiller le grand public par la beauté de ce qui est invisible pour les yeux, mais aussi le côté moins rigolo, c'est dans les instances politiques enfoncer le clou sur le besoin d'avoir encore et encore des connaissances pour après mieux légiférer, réglementer. On y est contraint et forcé, hein, on voit bien avec les fermetures de pêche à pied.
Oui, le clou est enfoncé, en tout cas, grâce à cette émission, on espère. Merci beaucoup, Virginie, Antoine. Merci, Nicole.
Oui, juste si... c'était trop tard.
Merci. De toute façon, on pourra réécouter cette émission sur le site internet de la radio. Et puis, vous pourrez aussi revenir, hein, bien sûr. Au revoir.
Au revoir.